Radio Okapi. Okapi.
Contre les FDLR. La RDC renonce à l'aide de la MONUSCO dans cette opération. Annonce du président Joseph Kabila hier devant les ambassadeurs accrédités à Kinshasa. Entre autres raisons, la nomination des deux généraux que la MONUSCO accuse de violations graves des droits de l'homme. Province orientale, des milliers d'hectares de forêts détruits en Ituri par des exploitants miniers étrangers. Le gouverneur Jean Bamanissa, qui le constate, décide d'expulser ces exploitants, parmi lesquels on retrouve des Chinois, des Tanzaniens et des Brésiliens. Lutte contre le VIH-Sida à Guémena dans l'Équateur. L'ONG Vision Mondiale sensibilise les leaders communautaires à la protection des personnes vivant avec cette maladie. Cependant, la plupart des PVV restent dans l'anonymat par peur d'être discriminés, constate le PNMLS. Madame, Monsieur, bonjour. Le gouvernement congolais renonce à tout soutien de la MONUSCO dans les opérations contre les FDLR dans l'est de la RDC. L'annonce a été faite par le président Joseph Kabila lui-même lors d'une rencontre hier au Palais de la Nation avec les ambassadeurs accrédités à Kinshasa. D'après le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, des contradictions dans la communication sur cette question des FDLR seraient à la base de cette décision. Autre raison, la nomination des deux généraux accusés par la MONUSCO de violation grave des droits de l'homme, Lambert Mende au micro de nos confrères de la RTNC.
Le chef de l'État a annoncé officiellement à ses partenaires la renonciation de la République démocratique du Congo à tout soutien de la MONUSCO dans l'opération contre les FDLR, l'opération de désarmement des FDLR. Cette opération qui a été bel et bien commencée va donc se poursuivre par les seules forces armées de la République démocratique du Congo qui ont déjà réussi à réduire le nombre de ces FDLR de plusieurs dizaines de milliers à 1 millier seulement maintenant et qui ne vont certainement pas faillir à la mission de désarmer le millier qui reste. Donc aujourd'hui, la République démocratique du Congo vient de renoncer à l'aide de la MONUSCO concernant les opérations contre les FDLR.
Je vous rappelle que la MONUSCO a annoncé depuis la semaine dernière la suspension de son soutien à ses opérations de traque des FDLR en raison de l'implication présumée des deux généraux des FARDC dans des atteintes aux droits de l'homme. Je vous le disais en titre, des milliers d'hectares de faune et flore sont détruits sans aucune contrepartie par plus de 250 exploitants miniers étrangers qui ne sont pas en règle avec l'administration provinciale dans la province orientale. La majorité opère dans le district de l'Ituri. Dénonciation faite hier à Bounia par le gouverneur Jean Bamanissa Saïdi dans une conférence de presse à l'issue d'un travail de contrôle de ces exploitants. Parmi eux, des Chinois, des Tanzaniens et des Brésiliens dont la plupart utilisent des produits toxiques tels que la cyanure au mépris de la loi. Le gouverneur a prononcé l'expulsion de la plupart d'entre eux. José Deschartes Menga nous fait le point.
Ces étrangers qui exploitent principalement de l'or exercent dans les territoires d'Irumu, Mambasa, Djougou et Maragim. Ils font tous de l'exploitation semi-industrielle avec des grosses machines, soit en terre ferme, soit dans les cours d'eau. Aucun n'a reçu un récépissé du gouverneur lui permettant d'exercer cette activité. Certains n'ont même pas de passeport et moins encore de visa de séjour en RDC. Ajoutez à cela la destruction de l'écosystème. Jean Bamanissa.
Nous constatons qu'il y a un flux important de sujets chinois, tanzaniens, brésiliens qui viennent. Je n'avais jamais signé un seul récépissé pour la vingtaine d'entreprises qui se trouvent ici. Il y a destruction de l'environnement. J'ai vu des bacs à Nyanya de décantation à base de cyanure qui sont à ciel ouvert. Donc voilà autant de dangers dans l'environnement.
Le gouverneur s'est dit déterminé à remettre de l'ordre dans ce secteur. L'autre raison, les minerais qui sortent frauduleusement du pays alimentent des groupes armés et terroristes comme des ADF qui sèment la terreur contre les habitants de ces terres d'où ils sont tirés.
Ce sont des réseaux qui ont alimenté les groupes armés. Les groupes armés ont alimenté ces creuseurs pour créer une voie de sortie de ces produits.
Ces étrangers illégaux seront chassés de la province orientale selon le gouverneur. Certains seront renvoyés aux autorités minières de Kinshasa, d'où ils estiment tirer leur autorisation d'exploiter de l'or, tandis que ceux qui veulent régulariser leurs papiers doivent payer des pénalités évaluées en milliers de dollars. Aucun représentant des exploitants incriminés n'a voulu s'exprimer. Bounia, José Deschartes Menga, Radio Okapi.
Au Kasaï-Oriental, entre-temps, la société minière de Bakwangami Paribas pourrait bientôt trouver les moyens de financer son plan de relance. Une importante mission de la firme chinoise Fametal séjourne à Mbujimayi depuis vendredi pour ce faire. Le but de cette visite, apprécier les conditions et la possibilité d'établir un partenariat susceptible d'aider la MIBA à reprendre la production du diamant. Explication, Chris Mukand Matante.
La MIBA a concocté le plan de la relance de sa production depuis août 2014. Il appartenait au gouvernement central de trouver des mécanismes de financement de ce plan. Au bout d'une période de recherche, l'option qui a été prise, c'est celle du partenariat avec la firme chinoise Fametal, localisée dans la province de Shanghai en Chine, et qui a une branche à République démocratique du Congo, la société Mercure Ressources. Selon le directeur général de la MIBA, ce partenariat consiste en l'amodiation des périmètres de la MIBA sur le Sankuru. En d'autres termes, la firme chinoise aura l'autorisation d'exploiter dans les concessions de la MIBA, principalement sur la rivière Sankuru. Ceci moyennant des redevances comme droit d'accès à ces périmètres. Ces redevances seront affectées au financement du plan de relance de la MIBA. Au mois de décembre 2014, la MIBA a tenu son assemblée générale statutaire. À l'issue de celle-ci, l'ingénieur Hubert Kazadimabika a été confirmé directeur général de la MIBA. Il connaît bien la MIBA pour y avoir œuvré longtemps. Il a déjà recouru à l'expérience du partenariat avec les Chinois, ce qui a donné naissance à la société Anu Congo d'investissement minier, SACIM, qui exploite du diamant à Chibwe, dans le territoire de Miabi. Mbujimayi, Chris Mukand, Radio Kapi.
Et puis ces réactions après la publication du calendrier électoral par la CENI jeudi dernier. La dernière, c'est celle d'un expert et constitutionnaliste, l'ancien vice-président de la commission électorale nationale indépendante. D'après les analyses qu'il a faites, le professeur Jacques Njoli pense qu'il n'est pas possible pour la CENI d'organiser des bonnes élections en un temps si réduit, sans tout l'arsenal juridique et avec des contraintes tant politiques que temporelles. Ce calendrier est plus politique que technique et crée des incertitudes sur sa matérialisation, a dit Jacques Njoli au micro de Jeff Ngoy.
Ce calendrier peut générer des incertitudes et finalement des obstacles à sa réalisation. Sur les trois élections retenues, à chaque niveau, il y a quelques problèmes. D'abord, les élections locales, municipales, urbaines. Personne ne conteste l'importance de cette consultation. Mais c'est leur opportunité et leur chevauchement avec les autres élections et qui peuvent, n'est-ce pas, perturber l'ensemble du calendrier électoral. Une autre difficulté, c'est sur le plan de la faisabilité de ces élections. La CENI dit, elle n'a pas encore la liste des entités décentralisées. Donc, des circonscriptions. On va passer à plus ou moins 169 circonscriptions en 2011, à plus de 1300 voire 1500 circonscriptions qu'on ne connaît pas. Donc, si on veut avoir de bonnes élections, dans ces délais très réduits, je crois qu'il aurait mieux fallu de postposer les élections locales, municipales et urbaines au moment précis où nous aurons l'ensemble de textes relatifs à la décentralisation.
Jacques Joly sera l'invité de Radio Kapi à 7h33, heure de Bokutu. Nous sommes dans la province de l'Équateur. Et puis, la commission d'intégrité et médiation électorale, CIM en sigle, salue à la fois la promulgation de la loi électorale par le président de la République et la publication du calendrier électoral global des élections par la CENI. Dans une déclaration à la presse samedi, la CIM, dont la mission principale est de contribuer à l'émergence en RDC d'une culture démocratique qui privilégie des élections comme seule voie d'accès au pouvoir, toutes ces publications constituent une avancée notable dans la poursuite du processus électoral en cours en RDC. Jacques-Yves Molima nous en dit plus.
La CIM s'est saisie de l'opportunité pour encourager le gouvernement congolais à apporter dans le délai les réponses aux différentes contraintes logistiques et financières relevées par la CENI lors de la publication du calendrier électoral, tout en lui demandant de renforcer sa collaboration avec la CENI pour relever les différents défis. Quant à la CENI, la CIM l'encourage à multiplier des réunions de concertation et de sensibilisation avec la population en vue de l'appropriation du calendrier électoral global. La CIM appelle également la communauté internationale à évaluer pour sa part son apport technique, logistique et financier pour un bon accompagnement des élections. Par ailleurs, la commission d'intégrité et médiation électorale appelle toutes les parties prenantes au processus électoral en République démocratique du Congo à se préparer pour pour affronter dans la paix les échéances électorales et à privilégier des échanges francs.
Terminons dans l'Équateur où la protection des personnes vivant avec le VIH-Sida pose problème à Guémena. Ces personnes affectées par le Sida sont stigmatisées dans leur communauté. Le taux de prévalence dans cette zone s'élève à 1,6% par rapport au taux national qui est de 1,2%. Face à cette situation et avec l'afflux de réfugiés en provenance de la République centrafricaine où le taux de prévalence est de 17%, la Croix-Rouge locale avec l'appui de l'ONG Vision Mondiale sensibilise les leaders communautaires à la lutte contre cette maladie et aussi à la protection des PVV. Dominique Wolombi.
Dans la zone de santé de Guémena, à en croire les constats faits par les PNMLS, Programme national multisectoriel de lutte contre le sida, de nombreuses personnes vivant avec le VIH, à peine 480 identifiées, sont prises en charge par les structures sanitaires. La plupart restent dans l'anonymat par peur d'être stigmatisées et discriminées. La situation est telle que, faute de suivre les personnes affectées par cette maladie, les risques d'augmentation des cas sont permanents, surtout avec l'afflux des réfugiés centrafricains dont le taux de prévalence dans leur pays est de 17%. Et la plupart des femmes réfugiées s'adonnent à la prostitution avec des relations non protégées. Cette situation a attiré l'attention de la Croix-Rouge locale. Avec l'appui de l'ONG Protestance Internationale Vision Mondiale, elle s'est engagée à sensibiliser les leaders communautaires. La première session de formation organisée à l'attention des 100 leaders communautaires qui s'est achevée samedi avait pour but d'impliquer les participants dans la lutte contre le sida et de bannir la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec la pandémie dans leur communauté respective. Cette formation consistait notamment à vulgariser la loi 08/011 du 14 juillet 2008 portant protection des PVV. La deuxième session prévue ce lundi à mercredi prochain va porter sur la même matière. Mbandaka, Dominique Wolombi Mongapangi, Radio Okapi.
Merci d'avoir suivi ce journal et très bonne suite de programme sur Radio Okapi.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.